Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 75. Cécile Volange à Sophie Carnet. Je t'assure que c'est un homme bien extraordinaire. Maman en dit beaucoup de mal, mais le chevalier Danceny en dit beaucoup de bien, et je crois que c'est lui qui a raison. Je n'ai jamais vu d'homme aussi adroit. Quand il m'a rendu la lettre de Danceny, c'était au milieu de tout le monde, et personne n'en a rien vu. Il est vrai que j'ai eu bien peur parce que je n'étais prévenue de rien. Mais à présent, je m'y attendrai. J'ai déjà fort bien compris comment il voulait que je fisse pour lui remettre ma réponse. Il est bien facile de s'entendre avec lui, car il a un regard qui dit tout ce qu'il veut. Je ne sais pas comment il fait. Il me disait dans le billet dont je t'ai parlé qu'il n'aurait pas l'air de s'occuper de moi devant maman. En effet, on dirait toujours qu'il n'y songe pas. Et pourtant, toutes les fois que je cherche ses yeux, je suis sûre de les rencontrer tout de suite. Il y a ici une bonne amie de maman, que je ne connaissais pas, qui a aussi l'air de ne guère aimer M. de Valmont, quoiqu'il ait bien des attentions pour elle. J'ai peur qu'il ne s'ennuie bientôt de la vie qu'on mène ici et qu'il s'en retourne à Paris. Cela serait bien fâcheux. Il faut qu'il ait bien bon cœur d'être venu exprès pour rendre service à son ami et à moi. Je voudrais bien lui en témoigner ma reconnaissance, mais je ne sais pas comment faire pour lui parler. Et quand j'en trouverai l'occasion, je serai si honteuse que je ne saurais peut-être que lui dire. Il n'y a que Madame de Merteuil avec qui je parle librement, quand je parle de mon amour. Peut-être même qu'avec toi, à qui je dis tout, si c'était en causant, je serais embarrassée. Avec Danceny lui-même, j'ai souvent senti, comme malgré moi, une certaine crainte qui n'empêchait de lui dire tout ce que je pensais. Je me le reproche bien à présent, et je donnerais tout au monde pour trouver le moment de lui dire une fois, une seule fois, combien je l'aime. Monsieur de Valmont lui a promis que, si je me laissais conduire, il nous procurerait l'occasion de nous revoir. Je ferai bien assez ce qu'il voudra, mais je ne peux pas concevoir que cela soit possible. Adieu, ma bonne amie, je n'ai plus de place. Mademoiselle de Volange ayant, peu de temps après, changé de confidente, comme on le verra par la suite de ses lettres, on ne trouvera plus dans ce recueil aucune de celles qu'elle a continué d'écrire à son amie du couvent. Elle n'apprendrait rien au lecteur. Lettre 76. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Ou votre lettre est un persiflage, que je n'ai pas compris, ou vous étiez en me l'écrivant dans un délire très dangereux. Si je vous connaissais moins, ma belle amie, je serais vraiment très effrayée. Et quoi que vous en puissiez dire, je ne me ferais pas trop facilement. J'ai beau vous lire et vous relire, je n'en suis pas plus avancée, car de prendre votre lettre dans le sens naturel qu'elle présente, il n'y a pas moyen. Qu'avez-vous donc voulu dire ? Est-ce seulement qu'il était inutile de se donner tant de soins contre un ennemi si peu redoutable ? Mais dans ce cas, vous pourriez avoir tort. Prévan est réellement aimable. Il l'est plus que vous ne le croyez. Il a surtout le talent très utile d'occuper beaucoup de son amour, par l'adresse qu'il a d'en parler dans le cercle et devant tout le monde, en se servant de la première conversation qu'il trouve. Il est peu de femmes qui se sauvent alors du piège d'y répondre, parce que toutes ayant des prétentions à la finesse, aucune ne veut perdre l'occasion d'en montrer. Or, vous savez assez que femme qui consent à parler d'amour finit bientôt par en prendre, ou au moins par se conduire comme si elle en avait. Il gagne encore à cette méthode, qu'il a réellement perfectionnée, d'appeler souvent les femmes elles-mêmes en témoignage de leur défaite. Et cela, je vous en parle pour l'avoir vu. Je n'étais dans le secret que de la seconde main, car jamais je n'ai été liée avec Prévan. Mais enfin, nous y étions six, et la comtesse de P, tout en se croyant bien fine, et ayant l'air en effet, pour tout ce qui n'était pas instruit, de tenir une conversation générale, nous raconta dans le plus grand détail, et comme quoi elle s'était rendue à Prévan, et tout ce qui s'était passé entre eux. Elle faisait ce récit avec une telle sécurité qu'elle ne fut pas même troublée par un fou rire qui nous prit à tous six en même temps. Et je me souviendrai toujours qu'un de nous ayant voulu, pour s'excuser, feindre de douter de ce qu'elle disait, ou plutôt de ce qu'elle avait l'air de dire, elle répondit gravement qu'à coup sûr nous n'étions aucun aussi bien instruits qu'elle. Et elle ne craignait pas même de s'adresser à Prévan pour lui demander si elle s'était trompée d'un mot. J'ai donc pu croire cet homme très dangereux pour tout le monde. Mais pour vous, marquise, ne suffisait-il pas qu'il fût joli, très joli, comme vous le dites vous-même, ou qu'il vous fît une de ces attaques que vous vous plaisez quelquefois à récompenser, sans autre motif que de les trouver bien faites, ou que vous eussiez trouvé plaisant de vous rendre par une raison quelconque, ou que sais-je, puis-je deviner les mille caprices qui gouvernent la tête d'une femme et par qui seule vous tenez encore à votre sexe ? À présent que vous êtes averti du danger, je ne doute pas que vous ne vous en sauviez facilement. Mais pourtant fallait-il vous avertir. Je reviens donc à mon texte. Qu'avez-vous voulu dire ? Si ce n'est qu'un persiflage sur Prévan, outre qu'il est bien long, ce n'était pas vis-à-vis de moi qu'il est utile. C'est dans le monde qu'il faut lui donner quelques bons ridicules, et je vous renouvelle ma prière à ce sujet. Ah, je crois tenir le mot de l'énigme. Votre lettre est une prophétie. Non de ce que vous ferez, mais de ce qu'il vous croira prête à faire au moment de la chute que vous lui préparez. J'approuve assez ce projet. Il exige pourtant de grands ménagements. Vous savez comme moi que, pour l'effet public, avoir un homme ou recevoir ses soins est absolument la même chose, à moins que cet homme ne soit un sot. Et Prévan ne l'est pas, à beaucoup près. S'il peut gagner seulement une apparence, il se vantera et tout sera dit. Les sots y croiront, les méchants auront l'air d'y croire. Quelles seront vos ressources ? Tenez, j'ai peur. Ce n'est pas que je doute de votre adresse, mais ce sont les bons nageurs qui se noient. Je ne me crois pas plus bête qu'un autre. Des moyens de déshonorer une femme, j'en ai trouvé 100, j'en ai trouvé 1000. Mais quand je me suis occupée de chercher comment elle pourrait s'en sauver, je n'en ai jamais vu la possibilité. Vous-même, ma belle amie, dont la conduite est un chef-d'œuvre, 100 fois j'ai cru vous voir plus de bonheur que de bien jouer. Mais après tout, je cherche peut-être une raison à ce qui n'en a point. J'admire comment, depuis une heure, je traite sérieusement ce qui n'est à coup sûr qu'une plaisanterie de votre part. Vous allez vous moquer de moi. Eh bien, soit, mais dépêchez-vous et parlons d'autre chose. D'autre chose. Je me trompe. C'est toujours de la même. Toujours des femmes à avoir ou à perdre, et souvent tous les deux. J'ai ici, comme vous l'avez fort bien remarqué, de quoi m'exercer dans les deux genres, mais non pas avec la même facilité. Je prévois que la vengeance ira plus vite que l'amour. La petite Volange est rendue, j'en réponds. Elle ne dépend plus que de l'occasion et je me charge de la faire naître. Mais il n'en est pas de même de Madame de Tourvel. Cette femme est désolante, je ne la conçois pas. J'ai 100 preuves de son amour, mais j'en ai 1000 de sa résistance. Et en vérité, je crains qu'elle ne m'échappe. Le premier effet qu'avait produit mon retour me faisait espérer davantage. Vous devinez que je voulais en juger par moi-même. Et pour m'assurer de voir les premiers mouvements, je ne m'étais fait précéder par personne. Et j'avais calculé ma route pour arriver pendant qu'on serait à table. En effet, je tombais des nues comme une divinité d'opéra qui vient faire un dénouement. Ayant fait assez de bruit en entrant pour fixer les regards sur moi, je pus voir du même coup d'œil la joie de ma vieille tante, le dépit de Madame de Volanges et le plaisir décontenancé de sa fille. Ma belle, par la place qu'elle occupait, tournait le dos à la porte. Occupée dans ce moment à couper quelque chose, elle ne tourna seulement pas la tête, mais j'adressai la parole à Madame de Rosemonde. Et au premier mot, la sensible dévote ayant reconnu ma voix, il lui échappa un cri dans lequel je crus reconnaître plus d'amour que de surprise et d'effroi. Je m'étais alors assez avancé pour voir sa figure. Le tumulte de son âme, le combat de ses idées et de ses sentiments s'y peignirent de 20 façons différentes. Je me mis à table à côté d'elle. Elle ne savait exactement rien de ce qu'elle faisait ni de ce qu'elle disait. Elle essaya de continuer de manger. Il n'y eut pas moyen. Enfin, moins d'un quart d'heure après, son embarras et son plaisir devenant plus forts qu'elle, elle n'imagina rien de mieux que de demander permission de sortir de table et elle se sauva dans le parc sous le prétexte d'avoir besoin de prendre l'air. Madame de Volanges voulut l'accompagner. La tendre prude ne le permit pas, trop heureuse sans doute de trouver un prétexte pour être seule et se livrer sans contrainte à la douce émotion de son cœur. J'abrégeai le dîner le plus qu'il me fut possible. À peine avait-on servi de dessert que l'infernal Volanges, pressé apparemment du besoin de me nuire, se leva de sa place pour aller trouver la charmante malade. Mais j'avais prévu ce projet et je le traversais. Je feignis donc de prendre ce mouvement particulier pour le mouvement général. Et m'étant levée en même temps, la petite Volanges et le curé du lieu se laissèrent entraîner par ce double exemple. En sorte que Madame de Rosemonde se trouva seule à table avec le vieux commandeur de thé, et tous deux prirent aussi le parti d'en sortir. Nous allâmes donc tous rejoindre ma belle, que nous trouvâmes dans le bosquet près du château. Et comme elle avait besoin de solitude et non de promenade, elle aima autant revenir avec nous que nous faire rester avec elle. Dès que je fus assurée que Madame de Volanges n'aurait pas l'occasion de lui parler seule, je songeais à exécuter vos ordres et je m'occupais des intérêts de votre pupille. Aussitôt après le café, je montai chez moi et j'entrai aussi chez les autres pour reconnaître le terrain. Je fis mes dispositions pour assurer la correspondance de la petite. Et après ce premier bienfait, j'écrivis un mot pour l'en instruire et lui demander sa confiance. Je joignis mon billet à la lettre de Danceny. Je revins au salon. J'y trouvai ma belle établie sur une chaise longue dans un abandon délicieux. Ce spectacle, en éveillant mes désirs, anima mes regards. Je sentis qu'il devait être tendre et pressant, et je me plaçais de manière à pouvoir en faire usage. Leur premier effet fut de faire baisser les grands yeux modestes de la céleste prude. Je considérai quelque temps cette figure angélique, puis, parcourant toute sa personne, je m'amusais à deviner les contours et les formes à travers un vêtement léger, mais toujours importun. Après être descendue de la tête aux pieds, je remontai les pieds à la tête. Ma belle amie, le doux regard était fixé sur moi. Sur le champ, il se baissa de nouveau. Mais, voulant en favoriser le retour, je détournai mes yeux. Alors s'établit entre nous cette convention tacite, premier traité de l'amour timide, qui, pour satisfaire le besoin mutuel de se voir, permet aux regards de se succéder en attendant qu'ils se confondent. Persuadé que ce nouveau plaisir occupait ma belle tout entière, je me chargeai de veiller à notre commune sûreté. Mais après m'être assuré qu'une conversation assez vive nous sauvait des remarques du cercle, je tâchai d'obtenir de ses yeux qu'ils parlassent franchement leur langage. Pour cela, je surpris d'abord quelques regards, mais avec tant de réserve que la modestie n'en pouvait être alarmée. Et pour mettre la timide personne plus à son aise, je paraissais moi-même aussi embarrassé qu'elle. Peu à peu, nos yeux, accoutumés à se rencontrer, se fixèrent plus longuement. Enfin, ils ne se quittèrent plus, et j'aperçus dans les siens cette douce langueur, signal heureux de l'amour et du désir. Mais ce ne fut qu'un moment. Et bientôt revenue à elle-même, elle changea, non sans quelque honte, son maintien et son regard. Ne voulant pas qu'elle pût douter que j'eusse remarqué ses divers mouvements, je me levai avec vivacité, en lui demandant, avec l'air de l'effroi, si elle se trouvait mal. Aussitôt, tout le monde vint l'entourer. Je les laissai tous passer devant moi. Et comme la petite Volange, qui travaillait à la tapisserie auprès d'une fenêtre, eut besoin de quelque temps pour quitter son métier, je saisis ce moment pour lui remettre la lettre de Danceny. J'étais un peu loin d'elle. Je jetai l'épître sur ses genoux. Elle ne savait en vérité qu'en faire. Vous auriez trop ri de son air de surprise et d'embarras. Pourtant, je ne riais point, car je craignais que tant de gaucherie ne nous trahît. Mais un coup d'œil et un geste fortement prononcé lui firent enfin comprendre qu'il fallait mettre le paquet dans sa poche. Le reste de la journée n'eut rien d'intéressant. Ce qui s'est passé depuis amènera peut-être des événements dont vous serez contente, au moins pour ce qui regarde votre pupille. Mais il vaut mieux employer son temps à exécuter ses projets qu'à les raconter. Voilà d'ailleurs la 8e page que j'écris, et j'en suis fatiguée. Ainsi, adieu. Vous vous doutez bien, sans que je vous le dise, que la petite a répondu à Danceny. J'ai aussi eu une réponse de ma belle, à qui j'avais écrit le lendemain de mon arrivée. Je vous envoie les deux lettres. Vous les lirez ou vous ne les lirez pas, car ce perpétuel rabâchage, qui déjà ne m'amuse pas trop, doit être bien insipide pour toute personne désintéressée. Encore une fois, adieu. Je vous aime toujours beaucoup, mais je vous en prie, si vous me reparlez de Prévent, faites en sorte que je vous entende. Lettre 77. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. D'où peut venir, madame, le soin cruel que vous mettez à me fuir? Comment se peut-il que l'empressement le plus tendre de ma part n'obtienne de la vôtre que des procédés qu'on se permettrait à peine envers l'homme dont on aurait le plus à se plaindre? Quoi, l'amour me ramène à vos pieds, et quand un heureux hasard me place à côté de vous, vous aimez mieux feindre une indisposition, alarmer vos amis, que de consentir à rester près de moi. Combien de fois hier n'avez-vous pas détourné vos yeux pour me priver de la faveur d'un regard? Et si un seul instant j'ai pu y voir moins de sévérité, ce moment a été si court qu'il semble que vous ayez voulu moins m'en faire jouir que me faire sentir ce que je perdais à en être privé. Ce n'est là, j'ose le dire, ni le traitement que mérite l'amour, ni celui que peut se permettre l'amitié. Et toutefois, de ces deux sentiments, Vous savez si l'un m'anime, et j'étais, ce me semble, autorisé à croire que vous ne vous refusiez pas à l'autre. Cette amitié précieuse, dont sans doute vous m'avez cru digne, puisque vous avez bien voulu me l'offrir, qu'ai-je donc fait pour l'avoir perdue depuis? Me serais-je nui par ma confiance, et me puniriez-vous de ma franchise? Ne craignez-vous pas au moins d'abuser de l'une et de l'autre? En effet, n'est-ce pas dans le sein de mon amie que j'ai déposé le secret de mon cœur? N'est-ce pas vis-à-vis d'elle seule que j'ai pu me croire obligé de refuser des conditions qu'il me suffisait d'accepter pour me donner la facilité de ne pas les tenir et peut-être celle d'en abuser utilement? Voudriez-vous enfin, par une rigueur si peu méritée, me forcer à croire qu'il n'eût fallu que vous tromper pour obtenir plus d'indulgence? Je ne me repens point d'une conduite que je vous devais, que je me devais à moi-même. Mais par quelle fatalité, chaque action louable devient-elle pour moi le signal d'un malheur nouveau? C'est après avoir donné lieu au seul éloge que vous ayez encore daigné faire de ma conduite, que j'ai eu, pour la première fois, à gémir du malheur de vous avoir déplu. C'est après vous avoir prouvé ma soumission parfaite, en me privant du bonheur de vous voir, uniquement pour assurer votre délicatesse, que vous avez voulu rompre toute correspondance avec moi, m'ôter ce faible dédommagement d'un sacrifice que vous aviez exigé, et me ravir jusqu'à l'amour qui seul avait pu vous en donner le droit. C'est enfin après vous avoir parlé avec sincérité que l'intérêt même de cet amour n'a pu affaiblir, que vous me fuyez aujourd'hui comme un séducteur dangereux dont vous auriez reconnu la perfidie. Ne vous lasserez-vous donc jamais d'être injuste? Apprenez-moi du moins quels nouveaux torts ont pu vous porter à tant de sévérité. Et ne refusez pas de me dicter les ordres que vous voulez que je suive. Quand je m'engage à les exécuter, est-ce trop prétendre que de demander à les connaître? Lettre 78. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Vous paraissez, monsieur, surpris de ma conduite, et peu s'en faut même que vous ne m'en demandiez compte, comme ayant le droit de la blâmer. J'avoue que je me serais cru plus autorisé que vous à m'étonner et à me plaindre. Mais depuis le refus contenu dans votre dernière réponse, j'ai pris le parti de me renfermer dans une indifférence qui ne laisse plus lieu aux remarques ni aux reproches. Cependant, comme vous me demandez des éclaircissements, et que, grâce au ciel, je ne sens rien en moi qui puisse m'empêcher de vous les donner, je veux bien entrer encore une fois en explication avec vous. Qui lirait vos lettres me croirait injuste ou bizarre. Je crois mériter que personne n'ait cette idée de moi. Il me semble surtout que vous étiez moins qu'un autre dans le cas de l'apprendre. Sans doute, vous avez senti qu'en nécessitant ma justification, vous me forciez à rappeler tout ce qui s'est passé entre nous. Apparemment, vous avez cru n'avoir qu'à gagner à cet examen. Comme, de mon côté, je ne crois pas avoir à y perdre, au moins à vos yeux, je ne crains pas de m'y livrer. Peut-être est-ce, en effet, le seul moyen de connaître qui, de nous deux, a le droit de se plaindre de l'autre. À compter, monsieur, du jour de votre arrivée dans ce château, vous avouerez, je crois, qu'au moins votre réputation m'autorisait à user de quelques réserves avec vous, et que j'aurais pu, sans craindre d'être taxé d'excès de pruderie, m'en tenir aux seules expressions de la politesse la plus froide. Vous-même m'eussiez traité avec indulgence, et vous eussiez trouvé simple qu'une femme aussi peu formée n'eût pas même le mérite nécessaire pour apprécier le vôtre. C'était sûrement le parti de la prudence, et il m'eût d'autant moins coûté à suivre que je ne vous cacherai pas que, quand Madame de Rosemonde vint me faire part de votre arrivée, j'eus besoin de me rappeler mon amitié pour elle et celle qu'elle a pour vous, pour ne pas lui laisser voir combien cette nouvelle me contrariait. Je conviens volontiers que vous vous êtes montré d'abord sous un aspect plus favorable que je ne l'avais imaginé. Mais vous conviendrez à votre tour qu'il a bien peu duré, et que vous vous êtes bientôt lassé d'une contrainte dont, apparemment, vous ne vous êtes pas cru suffisamment dédommagé par l'idée avantageuse qu'elle m'avait fait prendre de vous. C'est alors qu'abusant de ma bonne foi, de ma sécurité, vous n'avez pas craint de m'entretenir d'un sentiment dont vous ne pouviez pas douter que je ne me trouvasse offensé. Et moi, tandis que vous ne vous occupiez qu'à aggraver vos torts en les multipliant, je cherchais un motif pour les oublier en vous offrant l'occasion de les réparer, au moins en partie. Ma demande était si juste que vous-même ne crûtes pas devoir vous y refuser. Mais vous faisant un droit de mon indulgence, vous en profitâtes pour me demander une permission que sans doute je n'aurais pas dû accorder et que pourtant vous avez obtenue. Des conditions qui y furent mises, vous n'en avez tenu aucune, et votre correspondance a été telle que chacune de vos lettres me faisait un devoir de ne plus vous répondre. C'est dans le moment même où votre obstination me forçait à vous éloigner de moi que, par une condescendance peut-être blâmable, j'ai tenté le seul moyen qui pouvait me permettre de vous en rapprocher. Mais de quel prix est à vos yeux un sentiment honnête? Vous méprisez l'amitié, et dans votre folle ivresse, comptant pour rien les malheurs et la honte, vous ne cherchez que des plaisirs et des victimes. Aussi léger dans vos démarches qu'inconséquent dans vos reproches, vous oubliez vos promesses, ou plutôt, vous vous faites un jeu de les violer, et après avoir consenti à vous éloigner de moi, vous revenez ici sans y être appelé, sans égard pour mes prières, pour mes raisons, sans avoir même l'attention de m'en prévenir. Vous n'avez pas craint de m'exposer à une surprise dont l'effet, quoique bien simple assurément, aurait pu être interprété défavorablement pour moi par les personnes qui nous entouraient. Ce moment d'embarras que vous aviez fait naître, loin de chercher à en distraire ou à le dissiper, vous avez paru mettre tous vos soins à l'augmenter encore. À table, vous choisissez précisément votre place à côté de la mienne. Une légère indisposition me force d'en sortir avant les autres. Et au lieu de respecter ma solitude, vous engagez tout le monde à venir la troubler. Rentrez au salon, si je fais un pas, je vous trouve à côté de moi. Si je dis une parole, c'est toujours vous qui me répondez. Le mot le plus indifférent vous sert de prétexte pour ramener une conversation que je ne voulais pas entendre, qui pouvait même me compromettre. Car enfin, monsieur, quelque adresse que vous y mettiez, ce que je comprends, je crois que les autres peuvent aussi le comprendre. Forcé ainsi par vous à l'immobilité et au silence, vous n'en continuez pas moins de me poursuivre. Je ne puis lever les yeux sans rencontrer les vôtres. Je suis sans cesse obligé de détourner mes regards. Et par une inconséquence bien incompréhensible, vous fixez sur moi ceux du cercle dans un moment où j'aurais voulu pouvoir même me dérober aux miens. Et vous vous plaignez de mes procédés, et vous vous étonnez de mon empressement à vous fuir. Blâmez-moi plutôt de mon indulgence. Étonnez-vous que je ne sois pas partie au moment de votre arrivée. Je l'aurais dû peut-être, et vous me forcerez à ce parti violent mais nécessaire, si vous ne cessez enfin des poursuites offensantes. Non, je n'oublie point, je n'oublierai jamais ce que je me dois, ce que je dois à des nœuds que j'ai formés, que je respecte et que je chéris. Et je vous prie de croire que si jamais je me trouverais... Et je vous prie de croire que si jamais je me trouvais réduite à ce choix malheureux de les sacrifier ou de me sacrifier moi-même, je ne balancerai pas un instant. Adieu, monsieur. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. That you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John.